courants de pensée sont en train de miner les efforts pour combattre le réchauffement de la Terre, je parle bien ici du climato-scepticisme et de la collapsologie. Ces deux courants de pensée présentent un risque pour nos sociétés et ultimement pour les entreprises et les investisseurs. François Normand, spécialiste en géopolitique du journal Les Affaires, vous explique pourquoi dans cet épisode de Zoom sur le monde. Bonjour François.
Bonjour Catherine.
Peux-tu d'abord nous décrire brièvement en quoi consiste le climato-scepticisme et la collapsologie?
Le climato-scepticisme, ce sont les climato-sceptiques. Ce courant de pensée-là met en doute l'existence même du réchauffement climatique et de l'impact appréhendé sur l'humanité. Ce qui est moins connu, c'est que les climato-sceptiques se divisent en deux groupes. Donc, le premier groupe nie l'existence même du réchauffement climatique. Donc, tout débat devient un peu futile. C'est comme les gens qui disent que la Terre est plate. Donc, l'évidence, la science nous dit qu'il y a un réchauffement climatique. Le second courant ou groupe des climato-sceptiques, c'est qu'il y a un réchauffement, mais il serait causé par des causes naturelles. Donc, la Terre a 4,5 milliards d'années environ, et c'est clair que dans l'histoire de la Terre, il y a eu des réchauffements, des refroidissements, ça c'est connu, sauf que le présent réchauffement climatique, il n'est pas naturel, il est causé par l'humain. Donc, c'est pas une opinion, c'est pas mon opinion, c'est la science qui nous dit ça. Par ailleurs, la collapsologie, ce mouvement-là ou ce courant-là affirme que notre monde est en train de s'effondrer, que la fin de la civilisation approche et que même que l'humanité pourrait disparaître. Donc, le problème de la collapsologie, c'est qu'elle exagère l'impact des changements climatiques. On s'entend, là, Catherine, il y a une crise majeure, c'est le plus grand défi de l'humanité. Sauf que là, c'est vraiment exagéré, là, c'est des scénarios apocalyptiques. D'ailleurs, il se publie beaucoup de livres actuellement qui nous annoncent la fin du monde, donc avec des accents de millénarisme laïque et de survivalisme mainstream. Millénariste, c'est un mouvement qui, exemple, à l'approche du troisième millénaire, nous disait que la fin du monde approchait, c'est un peu religieux. Et les survivalistes, mais là, ça fait longtemps qu'ils existent, donc c'est des gens qui stockent de la nourriture chez eux, qui se préparent à la fin du monde. Et ces deux mouvements-là, avec la collapsologie, sont comme renforcés. Donc, ça les renforce dans leur mouvement ou leur intérêt à se préparer à la fin du monde. Donc, c'est pour ça que ce mouvement-là exagère un peu le risque des changements climatiques.
Et tu dis que ces deux mouvements-là représentent un risque pour nos sociétés et ultimement, donc, pour les entreprises et les investisseurs. Pourquoi?
Parce que ces deux courants-là, c'est un peu comme les fake news. Donc, ça crée de la distorsion, ça sème le doute, ça crée même la peur et ça mène, à vrai dire, à l'inaction et au décrochage d'une partie de nos citoyens. Pourquoi finalement transformer nos modes de production, révolutionner notre consommation d'énergie, réduire nos déchets, passer du capitalisme à l'écologie industrielle si la Terre ne se réchauffe pas ou bien si on n'a pas d'avenir? Donc, c'est pour ça que ces deux mouvements-là sont vraiment contre-productifs.
Puis selon toi, il faut une approche plus rationnelle dans la lutte au changement climatique parce que l'humanité, elle a déjà surmonté d'autres crises écologiques. Que devrions-nous faire?
À vrai dire, il faut revenir à un débat plus sain et déployer des actions plus constructives et plus mobilisatrices. Donc, récemment, d'ailleurs, il y a 6 chercheurs qui ont publié un texte dans le journal Le Monde qui est très intéressant. Et je te cite une citation extraite de ce texte-là. J'ouvre les guillemets. « La panique de la collapsologie est tout aussi paralysante que les certitudes des climato-sceptiques. » Donc, c'est clair qu'avec la crise écologique, si on ne fait rien, des effondrements partiels sont sans doute possibles, des effondrements qui pourraient faire en sorte que ça rende impossible une vie humaine décente dans certaines régions du monde parce qu'il ferait trop chaud. Mais ce n'est pas inéluctable, ce scénario-là, parce qu'il y a beaucoup de cas documentés dans l'histoire humaine où les humains, finalement, ont pris des bonnes décisions face à une crise pour tenter de trouver des solutions. Et je te donne 2 exemples concrets qui sont très documentés, Catherine. Premièrement, au Japon, au 17e siècle, le Japon là, a échappé à la déforestation. Crois-le ou non, au 17e siècle, on a presque coupé tous les arbres au Japon. Donc, pour faire face à la crise, on a adopté des politiques publiques pour interdire ou réduire la coupe d'arbres et réglementer l'utilisation du bois dans la construction. Et aujourd'hui, 70 % du territoire japonais est constitué de zones boisées. Donc, ils ont réussi à faire face à cette crise, s'en sont sortis. L'autre cas super important que je te mentionnerai, c'est le fameux protocole de Montréal qui a été signé à Montréal en 1987. par des pays industrialisés comme les États-Unis et le Canada. Et cet accord-là, c'était pour éliminer les substances qui réduisent la couche d'ozone qui rend possible la vie sur Terre. Donc, si tu n'as pas de couche d'ozone, tu n'as pas de vie sur Terre. Donc, dans les années 80, 70, on s'est aperçu que la couche d'ozone est en train de disparaître. On a pris des mesures. Actuellement, la couche d'ozone se reforme autour de la Terre. Et si la tendance se maintient, qu'on reste vigilant, selon les chercheurs qui ont signé le texte dans le monde, vers 2060, la couche d'ozone va revenir comme elle était avant qu'elle commence à être abîmée par l'activité industrielle humaine. Donc, tu vois bien que c'est possible de changer le cours des choses et c'est pour ça qu'il faut garder un discours constructif concernant la lutte au changement climatique. Il faut surtout se rappeler qu'il y a eu d'autres crises aussi qu'on pourrait nommer où ça avait vraiment l'air... la fin du monde politique, si on veut, quand les démocraties ont combattu le fascisme pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était un peu désespéré comme combat au début, pourtant on a réussi. Prend la reconstruction de l'Europe avec le plan Marshall en 1949, mais l'Europe était en ruine après la guerre, c'était désastreux. Pourtant, on a réussi à reconstruire l'Europe. L'Europe est devenue unifiée et c'est maintenant un continent de paix. Donc, tu vois qu'on peut y arriver, mais il faut se mobiliser, il faut que toutes les forces actives de la société s'impliquent. Et surtout, il faut arrêter de porter trop d'attention aux certitudes des climato-sceptiques et aux peurs irrationnelles des adeptes de la collapsologie, parce qu'on n'a pas le choix entre le paradis et l'enfer. La vie, c'est souvent plein de nuances grises, si on veut. Donc oui, la planète vit une grave crise écologique que nous avons créée de toutes pièces, nous les humains, mais maintenant c'est à nous de réparer les pots cassés et d'arrêter, je te citerai Diane Dufresne, la chanteuse, de tuer la beauté du monde.
Merci beaucoup, François.
Merci, Catherine.